un podcast France Culture.
À partir du 1er janvier, obligatoire de composter ses déchets?
Non, je savais pas. Mais c'est une bonne idée.
Et j'en ai entendu parler, effectivement, mais c'est bien que ce soit obligatoire. Ça serait mieux qu'on ait du coup les moyens pour pouvoir composter, ce qui en l'état n'est pas le cas.
Depuis le 1er janvier 2024, le tri à la source des biodéchets est désormais obligatoire en France pour toutes les collectivités locales. Ces biodéchets représentent une part importante de nos poubelles et n'étaient pas jusque-là suffisamment, dirons-nous, valorisés. Or, ils sont de véritables trésors et leur tri est devenu une nécessité car il est non négligeable dans la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité. Déchets, n'en jetez plus. C'est le titre de notre émission qui accueille ce soir en direct trois invités. Anaëlle Contrepoix, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes conseillère environnement d'intercommunalité de France. Alors c'est la Fédération des métropoles, des agglomérations, des communautés urbaines et des communautés de communes. Muriel Bruchet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes référente nationale biodéchets à l'ADEME, l'agence de la transition écologique. Et merci également d'être avec nous parce que vous venez de Rennes. Et Juliette Franquet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de l'association Zero Waste France. Et puis dans l'œil du monde planète, c'est Carole Dietrich, journaliste correspondante du quotidien Le Monde en Inde, à New Delhi, qui sera des nôtres pour parler de la pénurie de neige actuellement constatée dans l'Himalaya et particulièrement au Cachemire. Et elle évoquera les craintes pour les glaciers et l'approvisionnement en eau. Bienvenue à toutes et à tous. C'est votre magazine de l'environnement sur France Culture, de cause à effet, préparé par Anaï Morales, avec l'appui de Sandrine Chaperon, Vanessa Chang, des équipes de documentation de Radio France. Émission réalisée par Alexandra Malka, avec à la technique ce soir, Olivier Arnay. Alors, ces biodéchets, nos biodéchets sont des trésors, visiblement. Dites-nous peut-être, en guise d'introduction à cette émission, pourquoi est-ce qu'il faut les trier? Qui veut commencer? Muriel Bruchet?
Alors, les biodéchets, effectivement, il y a une importance capitale puisqu'ils représentent un tiers de nos poubelles noires. Et donc, là, actuellement, ces poubelles, elles finissent soit en incinération, soit en enfouissement. Et elles génèrent pas mal de pollution, donc tout ce qui va être émission de gaz à effet de serre, notamment. Oui. Ces biodéchets, ils peuvent être valorisés derrière, donc soit en compost, soit en biogaz. Et donc là, après, il y a des enjeux pour l'enrichissement de nos sols, le compost qui vient, lui, enrichir et maintenir la bonne santé des sols, et le biogaz qui peut donc, lui, se substituer au gaz naturel qu'on fait venir généralement des pays de l'Est et d'assez loin, et qui a un effet de serre bien plus important que le biogaz.
Mais oui. Donc, mais concrètement, alors de quels déchets parlons-nous? On va pas faire le liste de ce qu'il y a dans nos poubelles noires, hein, ne vous inquiétez pas, mais en précisant qu'environ un tiers, hein, c'est ça, de nos poubelles noires ou dites grises contiennent ces biodéchets, soit 83 kilos par habitant et par an, donc 5,5 millions de tonnes qui finissent dans des incinérateurs ou qui sont enfouis. Juliette Franquet, peut-être qu'il faut préciser, donc il y a les déchets verts et les déchets alimentaires, hein.
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, j'imagine qu'on va parler surtout des déchets alimentaires.
On peut parler des deux. Hein.
En tout cas, pour nous, c'est le combat le plus important aujourd'hui. Il y a aussi beaucoup de choses à dire sur les déchets verts, mais ça pourrait être une émission dédiée
à ce sujet.
Les déchets verts, il y a déjà plusieurs communes qui organisent, c'est les tontes de pelouse, etc. Quand on parle de déchets alimentaires, c'est tous les restes de repas. Donc concrètement, c'est la peau de banane.
Aussi.
C'est le gaspillage en premier lieu, vous faites bien de le rappeler. Qui pourraient être réduits, mais il y a aussi des biodéchets qu'on appelle irréductibles. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui font des chips avec les peaux de banane ou avec les épluchures de légumes, et il y a plein de choses qui peuvent être faites à partir de ces biodéchets, mais il y a une quantité astronomique qu'il est important de sortir de la poubelle, de tous les restes de préparation et de repas, qui, comme Muriel vient de le dire, pourraient être très riches pour les sols et aujourd'hui sont très polluants.
Anaël Contrepoix.
Oui, tout à fait. On a vraiment ces deux volets, les déchets verts et les déchets alimentaires qui vont composer tout ce gisement de biodéchets. Et donc, en effet, sur le volet déchets verts. En fait, les collectivités avaient déjà la main là-dessus et ils faisaient pas mal de choses. En revanche, sur les déchets alimentaires, c'est vrai que là, c'est un nouveau sujet à prendre à bras le corps aussi pour les collectivités.
Alors, même si sur les déchets verts, après on s'intéressera un peu plus sur le reste, mais même si sur les déchets verts, vous dites que des collectivités faisaient déjà un travail, on voit bien que malgré tout, certaines ne proposent pas de solutions adaptées et de proximité. C'est-à-dire que selon les villes ou les lieux, c'est amener vos déchets avec ce que vous pouvez, c'est-à-dire la voiture, une remorque si vous pouvez, et aller dans une déchetterie assez éloignée. On voit bien qu'on retrouve quand même au bout des rues ou dans les poubelles noires, on retrouve quand même souvent ces déchets verts, et en sachant que le brûlage est interdit d'ailleurs en France. Hein. Alors depuis quand d'ailleurs ? Vous savez pas. En tout cas, interdit. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a des risques quand même pour la santé. Pollution de l'air, hein, si je ne m'abuse, et des risques d'incendie. Et qu'on risque quand même une amende de 750 € si on brûle ces déchets verts au bout de son jardin. Mais, et c'est un énorme gâchis, parce que là, il y a quand même un potentiel de compost, non ?
Compost ou ensuite de broyage aussi potentiellement. On peut avoir les deux possibilités, soit de l'insérer pour la partie compostage, ou bien si on met à disposition, si la collectivité met à disposition des broyeurs, ça va pouvoir resservir à pas pour faire du paillage au niveau des plantations dans son jardin, par exemple.
Ouais, et donc éviter aussi cette pollution atmosphérique hein, qui est issue de ces brûlages-là. 830 000 tonnes de déchets sont brûlées chaque année, autant de ressources qui ne retournent pas à la terre. Alors ce tri des biodéchets, donc on imagine une mesure de bon sens face au réchauffement climatique et à l'urgence écologique, c'est une obligation de tri. Alors on peut rassurer les auditeurs, hein, c'est pas une obligation pour les citoyens.
Exactement.
C'est important de le rappeler parce qu'il y a beaucoup de fausses informations qui circulent.
C'est ça, Juliette Franquet, allez-y.
On a fait un article dédié sur notre site internet sur ça pour dire stop aux confusions. Parce que la responsabilité des déchets, elle incombe aux collectivités locales. Et bien sûr, c'est à tout un chacun de respecter les consignes de tri. Mais pour pouvoir trier ces biodéchets, il faut qu'il y ait un service public qui permette de le faire. Donc il y a des informations qui circulent. J'ai même entendu des amendes qui pourraient être aux particuliers.
Donc c'est faux.
C'est faux.
C'est faux.
Et donc, finalement, cette obligation, elle concerne les collectivités locales, donc les intercommunalités.
Exactement. Hein, les intercommunalités qui sont compétentes sur la gestion des déchets et qui ont du coup cette obligation-là.
Et alors, si on regarde précisément ce dossier, on se rend compte que cette obligation, en fait, était déjà inscrite dans la loi française depuis 2015. Alors, pourquoi une nouvelle réglementation ?
Alors,
Muriel Bruchet.
Oui. Cette réglementation, donc en fait, elle est même encore plus vieille que ça. Elle date du Grenelle 2 de 2010, qui, elle, du coup, avait commencé à mettre en place une obligation de tri à la source pour ce qu'on appelle les gros producteurs, avec des seuils dégressifs petit à petit. Et en 2015, donc la LTECV, donc la loi de transition énergétique pour la croissance verte, qui a appliqué en fait cette obligation de tri pour les particuliers. Et donc pour les collectivités qui devaient donc mettre en place une solution de tri. Cette obligation, elle a été reprise dans la directive cadre déchets donc de l'Europe en 2018, qui a modifié, donc qui l'applique à tous les États membres qui a avancé en fait cette échéance qui, à la base, dans la loi de 2015, était fixée à 2025.
D'accord.
Et du coup, l'Europe l'a avancée d'un an.
D'accord.
Mais seulement d'un an. Donc les collectivités étaient au courant depuis 2015 qu'il y avait cette obligation. Et donc après, en découle l'application dans la loi française par la loi AGEC.
Donc la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Est-ce qu'on peut dire qu'on a perdu 8 ans et comment on explique peut-être le fait que 8 ans se soient écoulés ? Alors Anaëlle Contrepoix d'abord.
Alors, on n'a pas perdu 8 ans, puisqu'en soi, il ne s'est pas rien passé en 8 ans non plus. Au niveau de l'intercommunalité de France, du coup, ce sont des élus qui sont adhérents de l'association et qui nous partagent en fait les retours d'expérience de ce qu'ils ont déjà mis en œuvre. Et il y a en effet des collectivités qui se sont mis en ordre de bataille déjà et de longue date pour certaines.
Donc sur la base du volontariat.
Voilà, sur la base du volontariat et au fur et à mesure des obligations, se sont décidés à se lancer, à étudier aussi, puisqu'en fait, c'est aussi très important de faire le diagnostic en amont de ce qui peut être le plus approprié pour le territoire. Et donc, les élus ont porté cette volonté-là et ont pu déjà développer différentes solutions. Après, en effet, oui, toutes les collectivités n'ont pas avancé au même rythme. Mmh. Elles n'avaient pas non plus les mêmes moyens pour le faire. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on sait qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément la totalité du territoire qui est couvert par une solution. On redonnait les chiffres. Mais voilà, les collectivités se sont déjà lancées, en fait, sur des expérimentations et sur le déploiement.
Donc là, on peut dire combien de collectivités ont... je crois que Zero Waste France a fait un bilan, non ?
Juliette Franquet. L'ADEME a fait des bilans.
Oui, l'ADEME aussi, bien sûr.
Nous, on reprend les chiffres de l'ADEME. On a des militants.
Rendons à César ce qui appartient à César.
Ils regardent dans les collectivités. Mais
en fait, c'est ça.
Muriel Bruchet, allez-y.
On fait régulièrement des enquêtes auprès des collectivités pour savoir ce qu'elles ont mis en place, mais un peu sur tous les flux de déchets. Et donc, en fait, in fine, quasiment toutes les collectivités sont actives. Sur le tri à la source des biodéchets, mais c'est juste que comme il n'y a pas de critères, pas de définition dans le texte de loi tel qu'il est fait, on a un biais là-dessus pour savoir exactement le nombre de collectivités et connaître qu'est-ce qu'elles font concrètement. Et du coup, c'est pour ça qu'on parle plutôt en habitants desservis plutôt qu'en nombre de collectivités actives sur le tri à la source des biodéchets. Et donc, est-ce que je donne
le
chiffre?
Oui, mais complètement. Bah, je pense que tous les auditeurs attendent le chiffre, là.
Donc,
en habitant desservi.
En habitant desservi, on est à fin 2023, là, on était à 30% de la population française desservie par une solution mise en place par sa collectivité.
D'accord.
Et on atteindrait les 40% courant 2024.
D'accord, c'est l'objectif, en tout cas.
Alors, oui, bah, voilà. Mais l'objectif, il était de 100% au 1er janvier, la loi.
Oui.
Voilà, c'était que 100% des habitants soient couverts. Pour le 1er janvier, mais bon.
Donc là, non, on n'y sera pas, en tout cas, ça c'est sûr. Voilà. Juliette Franquet.
Vous êtes plus
dubitative, j'allais dire.
Oui,
bien sûr.
On est en colère. Enfin, en tant que mouvement citoyen, nous, notre association, elle a 25 ans. Comme vous l'avez dit, il y a un tiers des déchets ménagers qui sont des biodéchets et qui sont encore brûlés. Les impacts sont vraiment colossaux. On l'a un peu abordé, mais. Que ce soit, déjà.
Alors, l'interdiction de brûlage, on me l'a donnée, justement. Merci, Alexandra Malka. 2011.
Pour les déchets verts.
Voilà. Ouais. Depuis 2011, les déchets verts ne doivent plus être brûlés au fond du jardin ou ailleurs.
Et donc, quand on brûle des biodéchets dans les incinérateurs, c'est comme quand on brûle une salade. Enfin, c'est composé d'eau. Donc, c'est contre-productif de brûler des biodéchets. Les incinérateurs ont des impacts polluants sur l'air, sur la terre, sur les sols. Il y a des impacts des gaz à effet de serre sur la biodiversité, etc. Les décharges, c'est encore pire. Ça émet du méthane, notamment, qui est très polluant. Donc, nous, on attendait avec grande impatience cette loi qui était précurseuse par rapport à la loi européenne, mais maintenant tout le monde doit s'y mettre. C'est vrai que 8 ans, c'est à la fois long et court, et on peut entendre aujourd'hui les difficultés des collectivités locales avec les moyens qu'elles ont, mais en même temps, il y a une urgence environnementale. C'est un procédé, il faut revoir la gestion publique des déchets, il faut s'organiser, il faut voir comment trier, comment valoriser. Mais en 8 ans, si tout le monde s'y était mis le 1er janvier 2015, tout le monde serait prêt aujourd'hui. Donc nous, c'est ce qui nous met en colère aujourd'hui, c'est qu'on est dans un contexte d'inflation, de crise énergétique, on sait tous les problèmes économiques, sociaux qu'il y a aujourd'hui, mais on ne peut plus attendre, et chaque jour qui passe, c'est encore des millions de biodéchets qui sont incinérés. Donc, on prend acte de ce constat d'être à un tiers de l'objectif 8 ans après. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est comment on fait pour ne pas attendre 8 ans de plus. Oui. Et pour ça, il faut des moyens humains et financiers des collectivités locales et de l'État pour pouvoir accompagner la transition. Il faut une volonté politique. Il y a certaines collectivités qui ont mis des choses en place. Concrètement, il faut de l'argent. On parle souvent de la responsabilité des citoyens, mais au final, il faut repenser, il faut rajouter un bac, il faut rendre ça accessible aux citoyens.
Et oui, comme on disait, toutes les collectivités ne peuvent pas forcément le faire financièrement. On en parlera à un moment, bien sûr, de la façon dont l'ADEME, notamment, peut aider via des fonds versés par l'État. Mais c'est vrai que sans aide, on ne peut pas accélérer le mouvement. Et on voit bien que sans obligation aussi ferme, on aboutit qu'à un tiers. Donc, à un moment, malheureusement, il faut probablement passer par cette obligation-là, tout en permettant d'aider aussi les uns et les autres. En tout cas, on comprend qu'on est loin du compte. Alors, petite question quand même, quand on parle des biodéchets, là, on parle des biodéchets pour les foyers, les habitants, mais est-ce qu'on parle aussi pour les collectivités, les entreprises, les restaurants, ou c'est un autre secteur ? Tout le monde est concerné.
Tout le monde est concerné.
Tout le monde est concerné.
Absolument, tout le monde. Tout producteur de biodéchets est concerné par cette réglementation.
D'accord. En tout cas, donc loin du compte, un quart des ménages en gros ont accès à une solution de tri des déchets alimentaires. Je vous propose d'écouter ce reportage diffusé sur France 2 le 28 décembre 2023.
Est-ce que vous avez des solutions pour trier vos biodéchets ?
Pour l'instant, non. Je fais mes poubelles et je les monte là aux poubelles.
Je ne sais pas si, pour ceux qui sont de la ville, il va y avoir des composteurs.
Vous n'avez pas de composteur à disposition ?
Non.
Et c'est quelque chose qui vous manque, peut-être ?
Si on nous le donne, on l'utilisera, hein, bien sûr.
À Tourrette-sur-Loup, le maire a fait ce qu'il a pu. Dans ses jardins partagés, dont l'accès est réservé aux adhérents, il y a bien ce composteur collectif, le seul de la commune.
On est en train de réfléchir avec la communauté d'agglomération au composteur collectif, puisqu'il y a des lotissements, il y a des petits immeubles, il y a des gens qui n'ont pas de jardin, donc on va mettre en place des plateformes de compostage collectif.
Les collectivités ont distribué 200 composteurs individuels. Cette habitante en profite depuis quelques mois.
Du marc de café, une peau de banane.
C'est une habitude à prendre et qui est hyper facile à mettre en place.
Mais 200 composteurs pour une commune de 4500 habitants, le maire le confesse, c'est encore loin du compte.
Évidemment qu'au 1er janvier, qui est dans quelques jours, on ne sera pas prêt. Et les composteurs doivent être distribués au mois de janvier. Et quant à le process de ramassage, on est en train d'y réfléchir, on va faire ça au plus vite, mais on ne pourra pas faire ça au 1er janvier.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
On entend les bonnes volontés, bien sûr, dans ce reportage réalisé à Tourrette-sur-Loup, dans les Alpes-Maritimes. Et puis, on entend aussi le fait que, tout ne peut pas être fait tout de suite. Il faut se faire aider, en tout cas, pour certains plus que d'autres. Concrètement, quels sont les, peut-être que vous avez envie de réagir d'abord à ce reportage? Annaëlle Contrepoix?
Oui, peut-être une réaction dans le sens où, en effet, la volonté, elle est là, visiblement, on l'a entendu côté citoyen comme côté collectivité. Et les questions qui se posent, c'est concrètement, qu'est-ce qu'on choisit comme solution selon la typologie d'habitat qu'on a ? Parce que ça, c'est vraiment une grosse question de si je veux mettre en œuvre une solution, il faut qu'elle soit efficace et elle puisse être utilisée par toutes et tous. Donc l'accessibilité, et on en reparlera sûrement, mais dans les leviers, du coup, c'est comment est-ce qu'on communique à destination, on fait énormément de pédagogie auprès des citoyens pour que le geste il soit le plus clair possible pour toutes et tous.
Oui, parce qu'on se rend compte que peu de citoyens savent que désormais il y a cette obligation pour les collectivités locales. Muriel Bruchet.
C'est ça, sur la difficulté, on en parlait de comment faire, il y a vraiment cet enjeu, et nous, enfin, de faire une étude de faisabilité, en fait, de bien étudier son territoire, parce que chaque territoire est différent, chaque collectivité est différente. Et il y a des besoins de aussi, ça passe aussi par des enquêtes auprès de la population de qu'est-ce que vous êtes prêt à faire. C'est-à-dire qu'un endroit où on sait que tel quartier, on a une association qui est prête à, qui a la volonté de faire du compostage de quartier, de les accompagner dans ces démarches-là. Et quand on est dans de l'urbain dense, généralement, c'est ce qu'on voit se déployer. Ça va être plutôt donc des services de collecte. Et donc, pour la collecte, il y a plusieurs solutions, hein, que ça soit donc soit du porte-à-porte, où on vient, on est en bac chez soi, et c'est notre bac avec pour nos biodéchets. Ou alors, voilà, ce qui s'appelle des points d'apport volontaire, des bornes d'apport volontaire. Et du coup, là, voilà, ça, c'est comme des bornes à verre. Généralement, le verre, il est collecté en bornes d'apport volontaire. Et donc, on fait quelques mètres et on vient déposer ses biodéchets dans ces endroits-là. Et puis, voilà, ça, c'est plutôt réservé. Enfin, pas réservé, mais c'est plutôt ce qu'on voit se déployer dans les milieux urbains.
Alors, on peut peut-être s'attarder justement sur ces différentes façons de procéder, déjà au niveau des citoyens, et les solutions techniques qui sont préconisées. Donc, on se rend compte que, déjà, au niveau du tri, peut-être, quel type de tri proposer ? Donc, tri individuel, compostage domestique ou partagé, Juliette Franquet.
Oui, alors très concrètement, y a plusieurs solutions. Par exemple, quand on habite selon à la campagne, on peut avoir un composteur dans son jardin. Et quand on a la place, y a beaucoup de collectivités qui proposent des formations, des associations aussi. Donc ça, c'est très bien. Après, comme vient de le dire Muriel, c'est pas suffisant dans les territoires denses. Et effectivement, là, le témoignage qu'on a eu, il y a une distribution de 200 composteurs. Il y a peut-être des composteurs partagés, mais dans des grandes villes, il faut passer par une poubelle supplémentaire. C'est absolument indispensable pour pouvoir sortir tous les biodéchets de l'autre poubelle qu'on a en général, qui est marron. Ah oui. Et il y a ce que Muriel disait, donc la borne, en général, les gens sont habitués à amener le verre à quelques rues de chez eux. Une des solutions aussi, c'est de rajouter à côté du verre ou parfois du plastique une autre borne pour les biodéchets. Ce sur quoi nous on alerte, c'est que il faut que ça soit vraiment accessible. Ça a été dit, et accessible, ça veut dire
à 100 mètres à peu près de l'habitation, hein, 150 maximum, hein, c'est ça.
Ouais, c'est les préconisations.
100 mètres,
mais c'est quand même voilà, c'est ce qui au maximum, parce que comme le biodéchet, c'est un déchet qu'on globalement. Vulgairement sale et humide, c'est pas quelque chose qu'on veut garder chez soi, qu'on peut garder chez soi comme les emballages ou le verre.
Tout à fait.
On va vouloir l'évacuer rapidement de sa cuisine, et donc ben voilà, c'est quelque chose qu'on va faire plusieurs fois, peut-être dans la semaine. Et donc si la borne elle est trop loin, on risque de perdre le geste de tri de l'habitant. Et ça, c'est un vrai risque. Le point d'appoint volontaire, c'est un de ces freins.
Et ça a été abordé par Muriel tout à l'heure. Le problème, c'est qu'aujourd'hui cette loi, on n'a pas eu de décret, on n'a pas défini ce que voulait dire cette loi. Donc, moi, ce qui m'inquiète un peu dans le témoignage, c'est que la municipalité dit « on a distribué 200 composteurs ».
Mais qu'est-ce qu'on fait après ?
Enfin, je ne connais pas cette commune en particulier, mais en tout cas, il y a plein de communes en France dans lesquelles ça ne sera pas suffisant. Et aujourd'hui, au vu de la loi, comment on va faire pour contrôler, pour savoir qui l'a appliqué ou pas, pour pouvoir récompenser les collectivités qui se sont investies dans la démarche ? Et aussi dénoncer celles qui doivent accélérer. Il y en a qui sont vraiment, vraiment pas avancées et c'est urgent qu'elles s'y mettent.
Muriel Bruchet, vous voulez réagir peut-être sur cette question-là qui est quand même une question cruciale, c'est-à-dire c'est ce point de collecte. Après, on pourra parler justement de ce que deviennent ces déchets. Mais le point de collecte, c'est vrai que si on veut donner l'envie et sensibiliser et que ça ne devienne pas une contrainte supplémentaire dans un quotidien, comment on fait ?
Bah, du coup, comme c'est un changement d'habitude, il faut vraiment tout faire. Et du coup, là, c'est vraiment aussi un travail des collectivités de s'assurer que le geste soit simple, que tout, de faciliter ce geste de tri au maximum. Et du coup, de s'assurer que ben, voilà, le borne d'appoint volontaire n'est pas trop loin, qu'elle est propre, qu'on a équipé les ménages en ce qu'ils appellent les équipements de pré-collecte. Donc, de s'assurer que ben, voilà, ils aient un petit seau ou des choses comme ça pour faciliter ce geste de tri, que les consignes données soit clair aussi, parce que chaque collectivité, il y a ça aussi comme biais, on en parlera peut-être aussi, mais voilà, on sait qu'il y a des collectivités qui font la différence entre plutôt les restes carnés ici et ici les épluchures,
ah oui,
etc. Voilà, il y a, selon différents systèmes, les combinaisons, les combinaisons de solutions qui sont mises en place au sein d'une collectivité peuvent brouiller des fois les informations qui sont données aux citoyens.
Et là, vous parlez des seaux, mais est-ce qu'il est question aussi de fournir, par exemple, des sacs en papier ou compostables ? Parce que le risque, c'est aussi de voir des sacs qui ne sont pas compostables jetés dans ces poubelles pour récupérer les biodéchets. Et là, ce serait contre-productif.
Oui, tout à fait, c'est ça. Il y a une importance de la qualité. De la qualité du geste de tri, et derrière, parce que voilà, in fine, ça retourne au sol.
Ah oui.
Et donc, l'objectif.
Enfin, soit ça retourne au sol, soit ça fournit de l'énergie.
Soit ça fournit de l'énergie, mais
c'est
après.
Ça, la méthanisation. On a le contrepoids qui sourit, mais qui aura effectivement des éléments à donner. Allez-y, Muriel.
La méthanisation. Bon, la méthanisation peut quand même aussi retourner au sol derrière. Donc, il y a quand même un retour au sol, et donc, il y a du bon sens de ne pas mettre du plastique dans les sols.
Bien sûr.
Voilà.
Anna, le contrepoids. Donc, justement, à partir du moment où on a collecté, le traitement se fait comment ? Parce qu'on voit bien que sur les poubelles existantes, on parle souvent de la collecte aussi des déchets secs,
les
emballages, plastiques, papier. Et souvent, certains se disent, mais à quoi bon, vu la proportion de ce qui est traité ou ce qui l'était, parce qu'il y a eu de grandes améliorations, hein, quand même, il faut le dire. Mais il y a quand même ces réticences qui font que ça peut être aussi difficile d'embarquer d'avoir une acceptabilité de la part des citoyens.
Mm-hmm. Ouais, j'abonde totalement dans ce qui a été dit par Muriel sur la partie communication, explication et pédagogie. Sur les collectivités, beaucoup vont du coup travailler directement avec des ambassadeurs du tri qui vont aller faire du porte-à-porte pour pouvoir aller distribuer donc ce fameux matériel de pré-collecte, notamment s'il y a un bio-seau à distribuer ou les sacs, un guide qui explique quelles sont les consignes spécifiquement dans cette collectivité-là et qui vont pouvoir répondre aux questions. D'autres collectivités l'ont fait aussi dans le cadre de différents événements, des sensibilisations, d'essayer de toucher au maximum la population pour pouvoir expliquer comment ça se passe. Donc ça, c'est un élément qui est très important. Et donc sur le traitement, là encore, c'est le choix qui va être fait par la collectivité et en fonction de ce qu'il y a sur le territoire aussi existant, puisque on parlait de la méthanisation, ça suppose d'avoir un méthaniseur idéalement à proximité et qu'on ne soit pas obligé de faire transiter ces biodéchets collectés de façon vertueuse à 800 km ou 1000 km de là pour aller obtenir du biogaz.
Mais inversement, peut-être que des collectivités auront envie de s'équiper de méthaniseurs.
Tout à fait, c'est aussi possible. Et ça demande des investissements, puisque ça reste un outil industriel et qui est assez conséquent et qui peut prendre du temps à mettre en œuvre. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible que les collectivités le fassent. Ou alors, potentiellement aussi se rapprocher, par exemple, des agriculteurs, qui certains sont aussi équipés de méthaniseurs et donc pourront potentiellement accepter. Il y a tout un dialogue, en fait, et c'est aussi pour ça que c'est important. On reparle du diagnostic, encore une fois, de qu'est-ce qu'on a concrètement sur le territoire d'effectifs comme infrastructure, tant sur la collecte que sur le traitement de ces déchets.
En un mot, il n'y a que des avantages. Ah, Muriel Bruchet, vous voulez...
Oui, c'est que j'allais enchaîner sur juste oui, voilà, de s'assurer. Et puis du coup, là, il y a des enjeux de concertation territoriale, en fait, de mettre autour de la table tous les acteurs, donc vraiment entre le citoyen, la collectivité, et puis justement, si on s'adresse après aux agriculteurs, qu'ils soient prêts à reprendre la matière aussi, de les rassurer et d'instaurer un dialogue entre tous les acteurs d'un territoire, parce que les biodéchets, c'est vraiment, on avance une boucle locale, en fait. Le but, c'est de récolter localement, traiter localement, et pour un usage local.
Donc, vertu du système, quand même.
Voilà, c'est ça. C'est l'objectif.
Bien sûr. En tout cas, on comprend que les usages, donc, c'est permettre de fournir du compost pour les maraîchers, retour au sol des biodéchets, valorisation énergétique, production de biogaz, etc. On a tout un intérêt, enfin, on a tout à gagner. Ce ne sont que des avantages, a priori, de valoriser ainsi ces déchets, puisque, vous le disiez, je crois que c'est Anaël Contrepoids, au début d'émission, je crois que vous disiez, ça permet la réduction de la pollution par incinérateur notamment. Ça diminue le volume des ordures et donc les coûts de traitement, parce que pour les municipalités ou les intercommunalités, enfin, le coût des traitements de nos déchets est en hausse. Hein.
Oui. Un volume de déchets qui augmente, c'est forcément aussi les coûts qui augmentent. Et puis pas que, on a aussi forcément l'inflation qui impacte directement les collectivités. Voilà, la benne à ordures ménagère qui circule, la plupart du temps, elle a besoin d'essence pour fonctionner. Donc, c'est aussi un sujet. Donc, évidemment, ce coût-là, il est très important pour les collectivités locales. Il est en augmentation. Donc, si on se dit qu'on peut sortir cette fraction-là des biodéchets, c'est un financement, finalement, en moins derrière à apporter. Et puis, on a aussi le sujet de la taxe, je crois que c'était un sujet qui était abordé. Donc oui, en fait, toutes les collectivités qui incinèrent ou enfouissent des déchets payent une taxe, la taxe générale sur les activités polluantes.
D'accord.
Et donc c'est quand même un coût considérable à payer pour la collectivité. Donc si on sort une partie de ces déchets-là qui sont finalement valorisés, on aura moins de taxes à payer. Donc honnêtement, les collectivités ont tout intérêt à pouvoir sortir aussi ces biodéchets-là. Pour ça, c'est pas qu'un argument économique, mais c'est vrai que ça aide aussi à se dire que voilà, on va pouvoir mieux supporter ses coûts.
Après, je pense que Juliette va compléter, mais en fait, il y a quand même c'est quand même la mise en place les biodéchets. Donc il y a beaucoup d'avantages aussi là-dessus. Si on parle économie aussi. Après, c'est quand même la gestion d'un nouveau flux. On met en place tout un nouveau service qui a un coût. Qui a un coût
de départ
important. Et qui a un coût de départ, un coût à l'investissement et un coût de fonctionnement.
Oui.
Derrière, pour faire justement tout que les salaires des équipes, etc., le matériel. Et donc, ce n'est pas du un pour un. Dans le sens où si on réduit de un tiers les biodéchets, si on arrive à tout retirer, en fait, il y a quand même un coût pour la collectivité de devoir traiter, gérer ces nouveaux flux de déchets.
D'où l'aide de l'ADEME.
D'où l'aide de l'ADEME pour l'investissement.
Du coup, de l'État via l'ADEME.
Ouais, tout à fait.
Juliette Franquet, après on reviendra sur les aides.
Rappeler que le coût global de la gestion des déchets en France, il est énorme. C'est 20 milliards d'euros par an, dont 14 pour les collectivités locales. Donc, ça veut dire nos impôts locaux. Donc, en fait, on ne peut pas comparer de 1 à 1. Enfin, je suis dans la contradiction. parce que ce qu'il faut rappeler, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'investissements dans l'incinération, encore aujourd'hui, pour rénover, pour agrandir des incinérateurs ou pour même construire des incinérateurs. Et donc, il y a des investissements colossaux qui sont en train d'être actées, parfois avec de l'argent public. Et par contre, il n'y a pas assez d'investissement dans le traitement des biodéchets.
Et inversement, il y a encore des charges à ciel ouvert qu'on essaie de traiter et qui génèrent aussi beaucoup de coûts parce qu'il y a des pollutions aussi de l'environnement. Il faut absolument les traiter et là aussi, c'est colossal en investissement.
Exactement. Et en plus, heureusement, la réglementation sur les décharges a évolué et du coup, il faut mettre des couches pour éviter que le jus de la décharge aille dans les sols. Et du coup, ça veut dire que en fait, là, il faut juste casser la boucle de continuer à investir des milliards d'euros dans l'enfouissement et l'incinération. Et un dernier élément à prendre en compte, c'est le coût de l'inaction. Et c'est quelque chose dont on parle beaucoup dans les ONG écologistes. Aujourd'hui, on voit, par exemple, sur le plastique, enfin, on a des recherches académiques qui comptent le coût de l'inaction en termes de destruction de la planète, d'impact sur la santé, etc. Donc, il faut, si on parle d'économie, il faut parler, un, sur le long terme, et deux, les investissements qui ont été faits depuis 30 ans, qui sont en train d'être faits, et qui seront rentabilisés par le futur.
Bien sûr. Et puis aussi, dire que, concernant les avantages, fertiliser les sols en substituant des engrais naturels à des engrais de synthèse, là aussi, pour les agriculteurs, hein, puisqu'on est aussi dans ces questions-là, ça peut être très intéressant, parce que les coûts investis dans ces engrais, ces intrants chimiques, comme on dit, c'est quand même une grosse part aussi de leur fonctionnement.
Il y a plein d'autres effets indirects, par exemple.
Pour certains, en tout cas. Ouais.
Ramener des biodéchets à la Terre, ça permet l'absorption de carbone. Et donc, on parle aujourd'hui beaucoup de ces sujets-là dans le cadre du changement climatique. Donc, en fait, on pourrait passer 3 heures à expliquer tous les avantages. C'est vraiment relié. C'est un enjeu environnemental qui est pas, c'est pas, on parle pas que de déchets. On parle d'agriculture, on parle d'énergie, on parle de transport. Et en fait, effectivement, il faut réinventer et de manière urgente la manière dont on peut sortir ces biodéchets de la poubelle normale.
Donc le retour au sol, c'est une solution écologique et donc cette gestion rationnelle des biodéchets devrait contribuer de manière significative, c'est ce que vous nous dites, à la réalisation des objectifs climatiques et à l'indépendance énergétique.
Tout à fait, oui.
Les ambitions. Est-ce qu'on peut citer quelques villes qui ont adopté les bonnes pratiques en France depuis déjà quelques années?
Oui, alors... Nous, pas mal de territoires. Alors, c'est très varié puisque on peut avoir des solutions dans le rural ou dans l'urbain. Mais par exemple, donc on a la communauté de communes du bassin de Pompée. Donc c'est une communauté de communes au nord de Nancy, dans le Grand Est, qui elle s'est lancée de longue date, même avant l'obligation de 2015. Donc eux, pour le coup, c'est un territoire qui a choisi de faire une collecte en porte à porte. Donc c'est avec un bac qui a été distribué et c'est une collecte en sac. Et c'est ensuite envoyé dans une composterie intercommunale. Donc c'est l'intercommunalité qui a investi pour pouvoir avoir son propre outil. Et le compost est ensuite redistribué aux citoyens et peut avoir un usage aussi sur les espaces verts de la collectivité. Donc ça, c'est un modèle. On en a d'autres. Une collectivité qui est beaucoup plus urbaine, c'est au Grand Besançon, donc plutôt taille métropole, communauté urbaine. On a des difficultés qui sont différentes. On parlait justement de la question de quand on est dans l'urbain, dans le centre-ville, comment est-ce qu'on fait ? Il faut une collecte. Mais ils avaient une autre problématique qui était que ils sont dans un centre historique, en fait. Et donc, ils n'arrivaient pas à faire passer le fait de mettre des points d'apport volontaires. Donc, ils se sont dit, on va trouver d'autres solutions, on innove. Et donc, il y a une collecte en vélo-cargo qui est faite. Donc, en fait, il y a des permanences avec des vélo-cargo pour l'hypercentre. Et donc, chaque habitant a son petit seau et vient amener aux différentes heures de permanence. Et donc, ça permet, en plus d'avoir une personne qui contrôle la qualité du compost et de redonner les consignes s'il y a besoin.
Et d'avoir une mobilité douce en plus.
Et en mobilité douce. Et sur ce même territoire, ils se sont dit, oui, ça, c'est très bien pour l'hypercentre, mais sur le reste plus rural, on va avoir du mal à faire ça. Donc, du coup, on met en place du compostage, des chalets de compostage partagés également pour que ça puisse permettre de répondre aux différentes attentes des habitants.
Oui, Juliette Franquet.
C'est un très bon exemple parce qu'ils ont commencé en 2008. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que c'était une volonté politique. En fait, il fallait rénover un four d'incinérateur, donc réinvestir des milliards d'euros, j'en parlais tout à l'heure. Et donc, ils se sont dit, en fait, au lieu de continuer à brûler des déchets, il faudrait qu'on réduise les déchets. Effectivement, un tiers des déchets sont des biodéchets. Donc, on va mettre en place une solution pour les biodéchets. Et Et c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses, la volonté politique qu'il y a au départ de mettre en place quelque chose. Il y a d'autres exemples, par exemple à Grenoble, ils ont fait un schéma directeur et ils veulent réduire de moitié leurs déchets. Donc, en fait, le sujet à travers les biodéchets, forcément, je prêche pour ma paroisse, parce que Zero Waste France, ça veut dire réduction des déchets.
Oui.
C'est quand même le premier flux de déchets. C'est pas facile dans l'absolu, mais c'est quand même le plus facile par rapport aux autres. Le plastique, c'est pas recyclable. Il y a 9% du plastique qui a été recyclé depuis des décennies que ça existe, et c'est catastrophique pour l'environnement. Le bois, le papier, c'est la déforestation. Les biodéchets, c'est quand même ce qui est le plus accessible pour pouvoir réduire tous les déchets et tous les impacts environnementaux.
Muriel Bruchet. Peut-être des exemples de villes ou qui auraient été aidées par l'ADEME, parce qu'on disait donc que l'ADEME bien sûr vient en aide pour des territoires qui n'ont pas tous les mêmes moyens financiers aussi de répondre à cette obligation aujourd'hui, hein, depuis le 1er janvier 2024. L'État verse 100 millions à l'ADEME, c'est ça, pour faciliter le traitement des biodéchets. On est à peu près dans ce rapport-là.
Ouais, à peu près dans ce rapport-là. En fait, on a eu deux. En fait, l'ADEME accompagne les collectivités depuis 2011 sur le sujet des biodéchets, mais on a eu un gros renfort avec le plan de relance, qui a permis sur deux années consécutives d'accompagner plus de 500 porteurs de projets avec un fonds du coup de 100 millions d'euros. Et sur le sujet, vraiment, pour que ça soit investissement, études ou même unité de traitement. Donc là, c'était vraiment couvrir tout le sujet des biodéchets. Et puis, depuis 2023, on a le fameux fonds vert qui, lui aussi, vient accompagner vraiment spécifiquement les collectivités. Et donc, en 2023, on a eu 300 dossiers de collectivités. Pareil sur des investissements investissements biodéchets.
Donc là, la
demande est là, et puis du coup là avec
avec l'obligation de toute façon ça ne va pas cesser
a
priori. Donc non seulement vous financez mais vous accompagnez, vous aidez à mettre en place des choses cohérentes selon les territoires.
C'est ça. L'ADEME elle a vraiment deux grands rôles, hein. Donc c'est l'aide à la décision publique et puis l'aide à l'accélération de la transition écologique via les subventions, en fait, de favoriser toutes les actions qui permettent la transition écologique. Et donc forcément, tout ce qui va être accompagnement pour la gestion des biodéchets fait partie de ces actions-là. Et donc pour les biodéchets, on avait beaucoup de on a des grandes métropoles qu'on attendait qui se sont lancées. Par exemple, on a Nantes, Aix-Marseille, Montpellier, Saint-Étienne, etc. qui se sont lancées et qui du coup on va voir une population, les fameux 40%, ils vont augmenter d'année en année. Là, ça va être voyons le positif.
France Culture, De cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau. Seeds of love, the seeds of letters, seeds of rust, and leaves and flowers, seeds of rain. Seeds of passion, seeds of saffron, seeds of strawberry fields forever, seeds of grace. Seeds of peaches, seeds of beacon, seeds of peace, and seeds of hope. Seeds of pace, pine to pepper, seeds of glory, seeds of gold. How can you sell? How can you spoil them? How can you trade? How can you grow? Seeds of sorrow, seeds of sterile landscape, seeds of devastated corn, seeds of stray. Seeds of misery, seeds of mud and melon color, seeds of watermelon, seeds of waste. Seeds of silence, seeds of slumber, seeds of hunger, seeds of straw. Seeds of underneath the summer lies and then seeds of cold. How can you buy them? How can you sell them? How can you trade them? How can you do so?
C'était Camille qui chantait Seeds, un choix musical proposé par une auditrice étudiante de Sciences Po Paris du campus de Poitiers, Ambre Fétis, que nous remercions, ainsi que tous ses camarades. Un salut spécial. Et c'est la suite de Cause à Effet, le magazine de l'environnement sur France Culture. En direct, nous nous intéressons au tri des biodéchets obligatoires pour les collectivités locales depuis le 1er janvier. Déchets n'en jetez plus, nous en parlons avec Anaëlle Contrepoix, conseillère environnement d'Intercommunalité de France, Muriel Bruchet, référente nationale biodéchets à l'ADEME, et Juliette Franquet, directrice de l'association Zéro Waste Déchets. Non, Zéro Waste France.
Tout à fait.
Contre les déchets. Allez, on est vraiment en total direct. On ne vous ment pas, bien évidemment. En tout cas, cette production de déchets tout confondu, au-delà des biodéchets, est-ce que d'une manière générale, ce qui a été mis en place jusque-là a été concluant, ou est-ce que malheureusement la production de nos déchets est en augmentation ?
Alors, on a constaté des dernières années, effectivement, qu'on voit une augmentation globale, en fait, du flux de tous les déchets.
Oui.
Donc, ce qu'on appelle les déchets ménagers assimilés, on voit une augmentation, effectivement, de ces déchets. Après, pour des collectivités qui ont optimisé leur schéma, enfin, leur service public de gestion des déchets, donc vraiment tout ce qui est... pour gérer tous les flux, enfin, tous les déchets produits par les ménages.
C'est ça.
Quand on optimise ce service-là, quand on met en place une collecte ou une gestion des biodéchets, quand on met de la... Bon, il y a notre sujet, mais tout ce qui est tarification incitative, réduction des fréquences d'ordures ménagères, voilà, on peut constater une réduction à l'échelle de la collectivité des ordures ménagères. Enfin, des déchets, du flux de déchets.
Ce que vous nous dites, c'est que finalement, dans des villes ou villages où les habitants dépassent le quota de déchets autorisé sur l'année, donc sont obligés de payer, c'est-à-dire une sorte d'amende, mais un plus pour justement prendre leur part dans le tri, on va parler comme ça, là ça marche. On voit qu'il y a vraiment une baisse des déchets dès qu'on est dans la contrainte, en fait.
Oui, il y a
Anaëlle Contrepoix.
Il y a un peu de ça, mais c'est parfois pas suffisant. En fait, ce qui est compliqué, c'est que la collectivité en tant que telle, elle a pas la main sur quand l'habitant il est ou dans son supermarché ou face à son rayon et qui se dit bah voilà, est-ce que je vais prendre du vrac ou est-ce que je peux ceci. Bah la collectivité n'est pas derrière en lui disant attention, si tu prends ça, il va y avoir tel déchet. C'est compliqué, on n'a pas la main là-dessus. Et le citoyen n'a pas non plus la main sur ce qu'on va pouvoir lui offrir. Donc ce qui est proposé par les grands producteurs de l'agroalimentaire notamment, la collectivité, elle ne peut pas leur dire attention, pense à l'éco-conception, diminuer les emballages. Nous, on n'a pas cette capacité-là. Donc, il reste, même si on fait des efforts sur le tri, même si on fait tous ces investissements-là, donc on modernise nos centres de tri, on met en place les collectes suffisantes, on fait le tri à la source des biodéchets, il reste des fractions.
Oui.
Incompressibles pour l'instant de déchets qui ne sont pas recyclables et on n'a pas le choix que de finir par les envoyer en incinération ou en enfouissement. Et donc, c'est pour ça que ces décharges-là, elles existent encore. Et sur ça, on appelle vraiment de nos voeux à ce qu'il y ait des efforts qui soient faits sur la prévention, sur l'éco-conception, de privilégier aussi, d'encourager le réemploi. Mais voilà, il y a une fraction encore qui est compliquée et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à diminuer. Et le suremballage, ce phénomène-là, on le connaît. L'obsolescence programmée, on la connaît aussi. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. On met au maximum les investissements qu'on peut porter, mais c'est pas encore suffisant. On n'a pas toute la main sur tout le problème.
Est-ce qu'on ne peut pas, Juliette Franquet, jouer aussi peut-être sur ceux qui sont les producteurs ? C'est-à-dire là, on parle des emballages. On est tous, quand nous faisons nos courses, à regarder par exemple quatre yaourts qui tiennent bien ensemble et il y a un emballage autour des fameux yaourts. Par exemple, je prends ce cas-là, mais il y a d'autres cas. Des grands paquets de cornflakes, sincèrement, dedans, il n'y a que la moitié du grand paquet. Est-ce qu'il n'y a pas ce serait pas une politique peut-être à mettre en place ? Ça éviterait une certaine quantité quand même de déchets.
Alors, les politiques sont déjà mises en place, donc on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, comme vous voulez.
Comme vous voulez.
Il y a eu beaucoup de nouvelles réglementations avec des obligations, des interdictions. Donc là, si on sort du sujet des biodéchets en particulier, il y a eu beaucoup de nouvelles réglementations aussi pour l'information des consommateurs, pour qu'on arrête d'acheter des choses sur lesquelles il y a marqué « bon pour l'environnement », alors qu'en fait, si on ne l'avait pas acheté, ça serait meilleur pour l'environnement. Donc, il y a beaucoup de choses...
Être des vendeurs, hein. Je crois que l'ADEME fait des super vidéos sur des vendeurs.
Par exemple. Donc, il y a beaucoup de lois. Il en faudrait encore beaucoup, mais ce qui nous inquiète aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de lois qui ne sont pas appliquées. Et donc, nous, on fait notre rôle de lanceur d'alerte. Donc, pour les biodéchets, on incombe les collectivités locales et l'État. Pour le plastique, on incombe l'agroalimentaire qui fait du suremballage. D'autres choses, là, on travaille sur la réparation aussi. Donc, ça a été évoqué. Il faut que les produits soient bien conçus, que la réparation soit accessible, qu'elle coûte moins cher que l'achat neuf. Donc, nous, on se bat un peu sur tous les fronts. On croit quand même que ce qu'il faut, c'est des lois au niveau français et européen qui donnent un cadre pour que les bons élèves soient récompensés et que les mauvais élèves changent leurs pratiques. Pour ça, on fait plein d'actions. Par exemple, on fait de la mobilisation citoyenne pour aller contrôler dans les fast-foods s'ils utilisent vraiment de la vaisselle réutilisable, ce qui est obligatoire depuis un an. La réponse est non. Beaucoup ne sont pas encore en application avec la loi. Après, si on veut voir les choses un peu positives quand même, il y a des choses qui se passent. On sent, nous, en tant que mouvement citoyen, qu'il y a une conscience citoyenne qui est vraiment très forte. Et on sait que pour tous les changements d'habitude, il faut s'adapter, il faut comprendre. Mais on n'a jamais été aussi prêts collectivement en France. Alors, pas tout le monde, bien sûr, mais en tout cas, il y a un effort, il y a une conscience, il y a quelque chose qui bouge et nous, on le sent vraiment. Nos militants font des ateliers de sensibilisation et les gens sont à l'écoute. Et oui, ça demande un petit effort au début, mais après, quand on comprend pourquoi on le fait aisément. Et voilà.
Et vous parlez des citoyens impliqués. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du lombricompostage. Il n'entre peut-être pas dans le système, là, oui ou non, mais on voit bien que des citoyens sont prêts à aller jusqu'au lombricompostage, ce qui est aussi une. Enfin, ça implique quand même une connaissance aussi du système et une implication.
Oui, alors pour le lombricompostage, en fait, il est en effet, il fait partie de ces solutions, mais pour un usage individuel, en fait, voilà, il est un usage du particulier pour les biodéchets du particulier.
Oui.
Tout ce qui va être partagé, etc., il n'y a pas ça. En plus, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, mais du coup, c'est interdit, en fait, le lombricompostage en gestion partagée. Oui, tout à fait.
D'accord, interdit bon, en pas... gestion partagée, voilà. Mais en gestion individuelle.
Alors, pour les détails,
d'accord. D'accord. Donc, voilà. Ça veut dire en gestion individuelle, c'est pour produire son propre compost, voilà, pour ses propres plantes, etc. Donc, c'est vraiment à une petite échelle. On a compris qu'il fallait donc aider, accompagner, mais aussi contraindre par cette loi, et donc suivre et contrôler. Hein, on en parlait à l'instant avec Juliette Franquet. Est-ce que, au niveau de l'ADEME ou au niveau de l'État, hein, quelque chose et des intercommunalités, quelque chose a été mis en place pour qu'un contrôle soit prévu? Et est-ce qu'il y a aussi des obligations de moyens de résultat? Alors, Muriel Brochet.
Un contrôle n'est pas prévu pour l'instant. En fait, pas directement, pas comme ça. Nous, ce qu'on fait à l'ADEME, c'est qu'on suit la population desservie, les populations desservies, par une solution de tri à la source, de manière très régulière. En fait, donc, tous les 6 mois, on va chercher ces informations, on va enquêter les collectivités, on va chercher dans nos données, etc., toutes nos bases de données qu'on a, et donc on arrive à avoir un suivi assez précis de la population, et c'est pour ça qu'on arrive à savoir que voilà,
au moins s'il y a des résultats,
bientôt 40%.
Oui, parce que quand même vous financez, voilà. Donc vous contrôlez quand même pour voir si le financement a servi à quelque chose.
Exactement.
Rassurons les auditeurs. Quand
tout
même.
À fait. après, au niveau des contrôles, en fait. C'est compliqué. C'est très compliqué parce que, comme je disais, il y a cette solution de collecte qui, celle-ci, est possible à vérifier. Par contre, tout ce qui va être gestion de proximité, quand on équipe individuellement quelqu'un avec un... Quand on distribue des composteurs individuels, comment est-ce que vous voulez aller vérifier que cette personne fait bien le tri des biodéchets et que, bah, voilà, que ce composteur il est bien utilisé à bon escient et qu'on y met les déchets alimentaires? Parce qu'il y a encore des pratiques où les gens ont un composteur chez eux mais n'y mettent que les déchets verts. Donc non, là-dessus, en fait, ce qu'on va voir...
Je pense que c'est pas forcément le contrôle des citoyens pour l'heure, mais plutôt des intercommunalités, des collectivités, pour voir s'ils ont bien mis en place des choses effectives, puisqu'on disait qu'il fallait quand même essayer d'être au plus près des citoyens pour être incitatif, de mettre des choses qui étaient cohérentes par rapport aux différents environnements. C'est plutôt ce contrôle-là.
Oui. Ben ça, du coup, on les suit. On va suivre les collectivités. On sait lesquelles sont actives ou non, et après, voir après leur taux de desserte. Après, au niveau de la sanction, c'est un sujet un peu plus délicat. Bon, il y a quand même un article prévu au Code de l'environnement hein, qui date du Grenelle, effectivement prévoit potentiellement une sanction, mais bon, sur l'application derrière, c'est un peu plus compliqué d'aller contrôler et d'aller vérifier dans le détail ces collectivités.
Anaëlle Contrepoix, sur ces questions-là.
On en parlait en fait sur la question de l'obligation. En fait, dans la loi, on n'a pas spécifiquement d'obligation de mettre en place tel ou tel type de solution. Donc nécessairement, nous, on a été aussi un peu bloqués pour nos collectifs de leur dire concrètement quels vont être les critères qui vont devoir s'appliquer. Nous n'avons pas la réponse en fait aujourd'hui. Il y a eu en effet des grandes lignes qui ont été tracées. Il y a un avis du ministère de la transition écologique qui est paru début décembre 2023 pour donner un peu un cadre, donc notamment sur la répartition, l'espacement des points d'apport volontaires, la fréquence de collecte, si c'est une collecte, donc à minima hebdomadaire. Donc voilà, il y a quelques lignes directrices. Mais sinon, c'est vrai qu'on était jusqu'à présent assez dans le flou sur jusqu'à quel niveau il faut qu'on aille. Alors, on est conscient qu'évidemment, il faut qu'il y ait suffisamment de dispositifs qui soient adaptés à la typologie du territoire. Mais il nous manquait un peu cette vision-là. Donc là, on a au moins un début de cadre. Et nous, ce qu'on a besoin aussi, c'est que ce soit justement prévisible, que ça ne rechange pas encore dans 6 mois et qu'on nous redise « Oui, mais en fait, ce qu'on vous avait dit, c'est pas bon et ça rechange. » Parce que là, c'est très compliqué. Et s'il faut rechanger encore le schéma, bah, on parlait de l'invisibilité aussi pour les citoyens. Bah, là, ça ne fonctionnera pas non plus.
Oui, on n'embarque pas les personnes si ça va, ça vient, pour bon, parler
après,
de cette
même,
façon-là.
Si pour en rajouter Juliette une Franquet. Petite couche quand même, parce que du coup, notre mouvement, on combat sur ce sujet depuis plusieurs décennies. Et il y a une loi, il y a une intention de la loi, il y avait un objectif. Nous, on s'est battu pour qu'il y ait un décret, pour pouvoir définir est-ce que les collectivités respectent ou pas cette obligation. On a fait des mois de concertation. Finalement, il y a eu une note, mais au mois de décembre. C'est-à-dire que même si on prend la dernière loi, donc la loi AJEC de 2020, on a attendu 4 ans pour avoir une note, et qui est encore floue, mais parce que tout le monde ne s'est pas encore mis en marche. Donc nous, on est un peu atterrés parce que tout le monde se renvoie la balle, en fait. Mmh. L'État renvoie la balle vers les intercos. Les intercos disent, mais non, c'est les régions qui doivent faire des plans de gestion des déchets et du coup permettre l'installation des méthaniseurs.
Et on perd du temps,
Et donc, au bout d'un moment, chacun doit prendre sa part de responsabilité et des débats, ça fait 8 ans qu'on en a. Donc
là, il faudrait aller un petit peu plus loin, c'est ça,
oui.
C'est ce que vous dites.
Beaucoup plus loin.
Beaucoup plus loin. En tout cas, les dernières peut-être données, ce qu'il faut comprendre en France, c'est qu'il y a 10 millions de tonnes de nourriture qui sont gâchées, si on parle que de la nourriture par an, soit 16 milliards d'euros, et cela équivaut à 15 millions de tonnes de CO2. Ça équivaut à 3% des émissions de gaz à effet de serre de la France. Si on lutte contre le gaspillage, déjà, on aura fait aussi un grand pas. Mais il y a des choses à faire. Le verre à moitié vide, à moitié plein, ce que vous disiez, Juliette Franquet. Allez, à ce stade de l'émission, restez avec nous, bien sûr. Il est l'heure de retrouver l'œil du monde planète en partenariat avec le journal Le Monde. Et nous sommes avec Carole Dietrich, journaliste correspondante du quotidien Le Monde en Inde, à New Delhi, pour parler de la pénurie de neige actuellement constatée dans l'Himalaya et particulièrement au Cachemire. Bonsoir Carole.
Bonsoir Aurélie. Et oui, la région himalayenne subit effectivement cette année un déficit de précipitations. Les pistes de la station de ski de Gulmarg au Cachemire, habituellement recouvertes d'un épais manteau de neige de décembre à mars, ressemblaient cet hiver plutôt à des terres arides. Pourtant, Gulmarg est située à plus de 2600 mètres d'altitude. Elle est l'une des stations de ski les plus vastes et les plus hautes d'Asie. Des milliers d'amateurs de poudreuses y viennent chaque année du monde entier. Mais cette saison, les habitants disent ne jamais avoir vu d'hiver comme celui-ci. Un gérant d'hôtel nous a notamment rapporté que la patinoire extérieure de la ville, habituellement ouverte de décembre à février, n'avait même pas encore gelé mi-janvier, tant les températures avaient été élevées pour la saison, de 6 à 8 degrés au-delà de la normale. Si la semaine dernière, enfin, le mercure a baissé et les premiers flocons de l'année 2024 sont tombés sur Goulmargues, le mal est fait et ces chutes de neige ne pourront pas compenser la sécheresse subie au cours des derniers mois.
Et concrètement, quels sont les effets de ce manque de neige sur cette région ?
Alors le tourisme, qui représente environ 7% de l'économie du Jammu et Cachemire, est frappé de plein fouet. Les hôteliers, mais aussi les moniteurs de ski et de snowboard ont enchaîné les annulations. Des dizaines de magasins de location de matériel sont restés fermés. Mais ce secteur n'est pas le seul à faire les frais de la sécheresse. Les chutes de neige sont cruciales pour recharger les milliers de glaciers qui assurent les ressources en eau. Ainsi, l'agriculture, l'horticulture, mais aussi les projets hydroélectriques qui génèrent toute une partie de l'énergie de la région en pâtissent. Les changements climatiques ont déjà poussé les agriculteurs du Cachemire à modifier leurs pratiques. Beaucoup de paysans ont par exemple abandonné la culture de riz gourmande en eau pour des arbres fruitiers. Mais avec la sécheresse et l'ensoleillement, les arbres sont déjà en fleurs avec plus de 2 mois d'avance, menaçant cette année les récoltes. Par ailleurs, les autorités du Cachemire ont mis en garde contre des pénuries d'eau et les risques d'incendies de forêt.
Et alors Carole, que sait-on des causes de ce déficit de précipitations ?
Alors les experts jugent que ces conditions météorologiques inhabituelles sont liées au dérèglement climatique. Ces phénomènes pourraient même devenir plus fréquents et plus intenses à l'avenir. Les météorologues constatent déjà que l'hiver, qui s'étendait auparavant d'octobre à mars, se limite désormais au mois de décembre et janvier. Selon un rapport de 2020 du ministère indien des sciences de la Terre, l'impact du réchauffement climatique dans l'Himalaya et au Cachemire devrait être particulièrement marqué.
Merci Carole Dietrich.
Merci beaucoup.
Et votre article, bien sûr, sur le sujet est accessible sur la page de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet, où vous trouverez également le lien vers lemonde.fr.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Et oui, on le voit, le réchauffement à l'œuvre partout dans le monde. Alors pour accompagner ce tri des biodéchets, prendre un peu une part, parce que je disais que le gaspillage, ne serait-ce que juste le gaspillage de la nourriture en France représentait 3% de gaz à effet de serre pour la France. Est-ce qu'il est prévu des campagnes de communication, peut-être pour donner à comprendre, puisqu'on se rend compte que peu de citoyens sont au fait de ce qui est obligatoire pour leur collectivité locale, et peut-être qu'ils peuvent eux aussi pousser d'ailleurs, hein, réclamer et demander, non ? Annaëlle Contrepoix ?
Alors, sur les campagnes de communication, ce qui va être important, c'est de pouvoir, d'une part, expliquer comment ça fonctionne, et on le redisait tout à l'heure, peut-être sortir aussi des fausses idées de c'est pas une sanction, c'est bien la collectivité locale qui a l'obligation, et donc rapprochez-vous de votre collectivité pour savoir concrètement quelles sont les solutions qui sont à votre disposition. Et puis on a besoin aussi de continuer à accompagner les collectivités locales directement. Alors là plutôt sur quels sont les outils aussi à disposition pour qu'on puisse développer ces solutions-là. Donc les soutiens financiers de l'ADEME dans le cadre du Fonds vert notamment, sur l'ingénierie, sur le financement des études. Tous ces points-là, on a besoin que ça atterrisse à l'ensemble des collectivités. Donc nous, on communique évidemment à l'ensemble de nos adhérents toutes les ressources qu'on a. L'ADEME aussi, je pense, fait ce travail-là largement.
Oui, mais l'ADEME, bien sûr, et on reverra sur les sites. Est-ce qu'il est prévu à l'ADEME des vidéos du genre les dévendeurs, mais en lien avec les biodéchets ? Vous pourriez peut-être faire remonter cette demande, non, Muriel Bruchet ?
Oui, tout à fait.
Il faut pousser, là, quand même, non ?
On essaye, et ça marche bien, et on voit voilà qu'il y a eu des campagnes de communication qui ont bien marché. Après, voilà, c'est ça, sur les biodéchets, nous on fait à notre échelle ce qu'on peut pour communiquer sur tout ce qui est disponible. Mais voilà, après peut-être qu'une communication plus grande échelle serait la bienvenue. Ouais.
On va demander en haut lieu à votre président, on va l'inciter.
Tout à fait.
Allez, voilà, Juliette Franquet.
Ben moi, j'invite tous les auditeurs et auditrices à aller demander à leurs élus qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire et quels moyens ils ont mis en œuvre. Pour ça, on a fait des petits guides qui sont disponibles sur notre site internet, et savoir aussi comment se positionner, se sentir légitime face aux personnes qui sont redevables, qui ont un mandat. C'est une obligation démocratique. Il faut comprendre les difficultés financières, mais par contre, en fonction de la bonne volonté, il faut aller les titiller titiller ou les accompagner. Et pour ça, on a plein de groupes locaux à travers la France, dans des grandes villes comme Bordeaux, Toulouse, Marseille, Strasbourg, Besançon et plein d'autres. Et aussi dans des territoires plutôt ruraux. Et c'est des groupes de citoyens qui travaillent notamment sur les biodéchets, mais aussi sur le plastique, la fast fashion, la réparation. Et donc, rejoignez ces mouvements.
Il y a des outils. Et puis alors, ce qu'on n'a pas dit, mais on le glisse quand même, c'est qu'à l'échelle de l'Europe, il y a aussi des solutions inspirantes. Alors, des bons élèves et des mauvais. Allez, on mentionne Milan en Italie, la Catalogne en Espagne. Hein, on peut le faire quand même. Merci. Merci à toutes les trois. Anaël Contrepoix, Muriel Bruchet et Juliette Franquet. Alors, on peut aussi conseiller le livre de deux de vos membres, hein, de Zero Waste France, Alice Elfassi et Moira Tourneur, Déchets partout, justice nulle part, un livre édité chez Rue de l'Échiquier. Et puis bien sûr, pour les auditeurs, bibliographie, les liens vous concernant, toutes les trois sont à retrouver sur le site franceculture.fr, rubrique de cause à effet, podcast réécoute, vous y attendent.